Sourate pour Dubaï de Jean-Manuel Trémont, et c'est publié chez à l'atelier Création Libertaire, donc chez ACL. Sourate pour Dubaï, ou les mille et une histoires d'une ville-État qui se veut modèle du système capitaliste dans un décor de riche, très coûteux, mais plutôt style décor en carton-pâte. La mégalomanie architecturale y atteint des sommets et les conditions de travail sont les fioritures qui gomment les êtres humains pour ne garder que les fonctions qu'ils occupent dans ce chantier géant à ciel ouvert sur lequel sont en place 20% des grues de la planète. C'est ce que tu as écrit.
C'est ce que j'ai écrit, c'est ce que prétend la Chambre de commerce de Dubaï. Oh, doit y avoir un peu de vrai quand même.
Voilà. Sourate pour Dubaï, c'est le journal de bord d'une balade dans un Las Vegas économique fantasmé en pays d'Arabie. Journal où se côtoient les impressions d'un Candide au pays des Émirats, d'un Aladdin occidental qui parle à tout le monde, quand c'est possible, les constats, les chiffres officiels et les impressions à chaud. Mais un Aladdin qui ne possède nulle lampe merveilleuse, donc pas de génie magique, ni de tapis volant. Sourate pour Dubaï, beau titre pour décrire le débordement de fric basé sur l'exploitation qui offre, qui vend, devrais-je dire, la projection nouveau riche d'une ville-État trop étendue, trop dépendante de l'automobile, une ville lacérée par d'immenses autoroutes impassables, une ville peut-être la plus cosmopolite qui n'ait jamais existé, mais dont le cosmopolitisme a été stérilisé au bénéfice des bazars infiniment répétés. Dubaï, la clinquante et l'hyper contrôlée. La ville moderne est factice, une ville bigoto-pécheresse où la tolérance se résume à celle de la prostitution et de l'alcool, tant que ces deux bonheurs des bourgeoisies extérieures se tiennent dans les limites de la nuit et des bars d'hôtel. Une ville dont on ne sait si elle mine l'islam en y injectant les insidieux poisons de la modernité ou si, au contraire, elle le conforte en lui procurant une soupape de sûreté géante. Sourate pour Dubaï. Le Dubaï menaçant dépasse le Dubaï rêvé, mais procède de lui, ou plutôt de l'écart entre le rêvé et le réel, car pour que les mythes de Dubaï rêvé ne soient pas trop mis à mal par la réalité, il fallait que le pays ne soit pas un pays. Un vrai pays regorge de vieux, d'adolescents, de malades, de mendiants, ces inutiles qui empêchent de croire qu'on peut vivre comme des dieux. Il faut que le pays, Dubaï, ne soit qu'une entreprise, que la société ne soit une société qu'au sens commercial. De là, comme dans une entreprise explicite, l'usage des travailleurs jetables. Ils ne viennent que pour travailler sans leur famille. Mythe et capitalisme à l'ombre des nouvelles tours de Babel, l'économie a tout conquis, le pouvoir, l'espace, le temps, la perception, la réalité, l'imaginaire, le règne nu de la marchandise, enfin débarrassé des fictions politiques, des oripeaux constitutionnels, du cache-misère appelé démocratie, sourate pour Dubaï, un récit intéressant qui commence par les égouts.
c'est une chanson de Natasha Atlas dans la bande originale du film Intervention Divine. Vous êtes à l'écoute des Chroniques Rebelles de Radio Libertaire 89.4 et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales, c'est le 01 43 71 89 40.
Voilà, Intervention Divine, ça tombait bien puisque Sourate pour Dubaï de Jean-Manuel Trémont qui est parfaitement athée. J'ai pensé que c'était, il y avait une bonne un lien.
Oui, oui, moi hein? Je pense que d'ailleurs pour Dubaï la vraie devise c'est pas Allah ou Akbar, oui. Allah est grand, mais Dollar ou Akbar.
Dollar ou Akbar, oui, j'allais le dire. Tu m'as volé. Je t'ai volé du texte, mais là tu m'as volé ma formule.
Oui, parce que la prose splendide au début.
Oui, j'ai volé. Hein, j'avoue totalement.
D'ailleurs, c'est bien.
Il faut voler. Donc. Moi, ce que j'ai adoré, donc on peut commencer justement, c'est que tu as commencé le bouquin par les égouts.
Oui, par une sourate qui s'appelle la sourate des intestins, parce que ma foi, les égouts, c'est les intestins des villes. Et à Dubaï, j'ai eu un jour une petite surprise. J'étais dans un taxi, il n'y a pas vraiment tellement d'autres moyens de se déplacer à Dubaï que les taxis. Incidemment, 15 heures de travail par jour, aucun jour de congé pendant 2 ans, enfin bref, je vous passe le détail. Et ce taxi me montre un gros camion-citerne rouge. Bon. Puis ensuite, il me montre que devant, il y a un autre camion-citerne rouge, et que devant les deux camions-citernes rouges, il y a un troisième camion-citerne rouge, et puis il y en a un quatrième. Et puis, ça va jusqu'à l'horizon. Jusqu'à l'horizon des camions-citernes rouges. Ah ! Je dis, mais c'est quoi ça ? Les chauffeurs de taxi, il a un petit sourire parce qu'on était devenus copains, lui et moi, il me baladait un peu partout. Il me dit, attendez un petit peu. Alors on commence à enfiler, à passer à côté des camions citernes rouges. Et je compte. Et une fois que je suis arrivé à peu près à 100, j'en ai eu marre de compter parce que je me suis aperçu qu'il y en avait encore des centaines devant moi. Et là, mon chauffeur de taxi a accepté de me dire ce que c'était que ces camions citernes rouges. Alors c'est très simple. Dubaï, 1,5 million d'habitants. Seulement 10% de la population a la citoyenneté. Et sur le 1,5 million, il y a 800 000 travailleurs pakistanais, indiens, sri-lankais et népalais. Ces 800 000 travailleurs vivent dans des camps de travail. C'est le mot exact utilisé à Dubaï. Bon, c'est pas Auschwitz, faut pas exagérer, mais enfin, c'est pas fabuleux, fabuleux. Et dans ces camps de travail, il n'y a pas d'égout. Alors, pour les âmes naïves et simples, en gros, quand on chie, ça va où ? Donc, il n'y a pas d'égout pour les eaux de douche, il n'y a pas d'égout pour les eaux de cuisine, il n'y a pas d'égout pour les eaux de toilette. Il faut bien les évacuer. En conséquence de quoi, les camions-citernes rouges viennent prendre les eaux usées des 800 000 personnes et les apporter à la seule station d'épuration d'eau de Dubaï, qui dispose de 24 puits pour déverser ces eaux des camions-citernes rouges. Mais ces camions-citernes y viennent tous les jours. Il y en a 2000 pour 24 puits. Or, il faut à peu près 25 minutes pour qu'un camion-citerne se vide complètement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ces camions-citernes font la queue. Ils font la queue, ils sont 5 ou 600 chaque jour. Il peut arriver qu'il y ait des pics à 900. Ils font la queue. Et ils font la queue pendant des heures. Alors, imaginez-vous.
Sous le cagnard.
Sous le cagnard, parce que Dubaï, évidemment, c'est un des endroits les plus chauds de la planète. Il y a des journées à 50 degrés. Donc, imaginez-vous, vous êtes un chauffeur pakistanais, vous conduisez un camion qui a, je sais pas moi, je dis un chiffre au hasard, 30 000 litres d'eau particulièrement douteuse. Et vous arrivez et vous faites la queue pendant 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures. Il n'y a pas de toilette pour les chauffeurs, il n'y a pas de lieu où il y a de l'ombre, il n'y a rien, rien du tout. Donc ou bien vous êtes coincé dans votre cabine ou celle du copain, mais sans ça, il n'y a rien. Et pendant 20 heures, vous attendez. Et il se trouve que le jour, pourquoi est-ce que ce chauffeur m'a montré ça ? Parce que moi, j'avais justement demandé à aller visiter la station d'épuration. Et évidemment, à un moment, mon chauffeur prend une bifurcation qui est un raccourci, et puis je note qu'il y a quelques camions sur ce raccourci et il me dit vous allez voir, ces gars-là ils vont avoir un problème parce qu'évidemment c'est interdit. Et de fait on est arrivé à un lieu où les petits malins qui avaient cru pouvoir prendre le raccourci se faisaient gauler par la police, se faisaient mettre une amende qui correspondait à un mois de salaire.
Oh la vache.
que évidemment leur compagnie n'allait pas payer puisqu'ils avaient triché. Et en conséquence de quoi, s'ils étaient incapables de payer, bah à Dubaï c'est pas compliqué, il y a quasiment pas de prison à Dubaï. Je vais me dire merveilleux, un pays sans prison. Oui, non, c'est beaucoup plus simple que ça. À Dubaï, quand on a commis un crime ou un délit, bah c'est pas compliqué, on se retrouve dans un avion quelques heures après. Je dis bien quelques heures après, on est dans un avion. Zoup. Et là, les 10 ou 15 Pakistanais, ben, c'était très évident que s'ils n'avaient pas de quoi payer leur amende, ils allaient se retrouver dans un avion dans les heures qui suivaient. Je vous laisse imaginer la vie de ces gens-là qui font ça toute l'année, toute l'année. Alors c'est comme les chauffeurs de taxi, le contrat de travail de base du prolétaire dubaïote, c'est 2 ans de travail tous les jours. Tous les jours sans pause. Ensuite, 2 mois de vacances, non payés, mais dans la grande générosité des employeurs, en règle générale, on vous paye à ce moment-là le billet d'avion, aller-retour vers le Pakistan, l'Inde, etc. Mais c'est tout.
La police qui va attraper par exemple ces personnes qui ont fraudé en passant par la petite route qui fait gagner du temps là, ils sont de quelle origine?
Alors c'est là aussi où c'est amusant, c'est que évidemment les grands chefs de la police bien entendu sont des autochtones dubaïotes, mais j'imagine. À nouveau la vraie population de Dubaï, les citoyens de Dubaï, il y en a 150 000 pas plus. Sur les 150 000, il y en a 40 000 qui sont en fait des Iraniens depuis une ou deux générations. Donc il y a très très peu de dubaïotes, les vrais dubaïotes sont pourris de fric, donc évidemment ils n'ont pas envie spécialement de s'emmerder. Donc il y a juste une poignée de personnes qui dirigent cette police et la plupart des policiers sont des Pakistanais qui évidemment sont soumis exactement aux mêmes règles, donc qui obéissent au doigt et à l'œil, qui savent pertinemment la différence entre les abominables bidonvilles dont ils viennent au Pakistan et puis les immeubles quand même plus propres, plus décents où ils sont à Dubaï, et donc qui exécutent les ordres très très bien. Et j'ai un chapitre dans mon livre où je rapporte l'interview du lieutenant général de la police de Dubaï.
C'est une sourate, hein,
c'est une sourate, voilà. C'est une sourate.
Une suite de sourates.
Et c'est la sourate du lieutenant général, si je me souviens bien. Ouais. Et il est très très fier parce que lui, il a envoyé toute sa hiérarchie dans les universités américaines pour que ces gens-là soient frottés de sociologie, d'anthropologie, de psychologie, de tout ce que vous voulez au logis. Et la police de Dubaï était effectivement extrêmement efficace, extrêmement bien foutue, et surtout, bien entendu, elle dépend de dizaines de milliers de caméras de surveillance absolument dans tout le territoire, comme on le sait avec le coup des Israéliens qui étaient allés dégommer le gars du Hamas. Ils ont été filmés en long, en large et en travers. Vous arrivez à l'aéroport, au moment où vous passez la douane, pouf, vous êtes obligé de poser le doigt sur un preneur d'empreintes digitales, et en même temps vous regardez dans l'objectif, donc on vous prend en photo en ressortant, mais de toute façon à l'hôtel où j'étais, dans les rues, il y a des caméras absolument partout. Alors c'est un fait que c'est très tranquille à Dubaï. Hein. On n'a pas peur. Hein. Dans la rue, il n'y a pas de doute. On n'a pas peur. On a surtout peur, évidemment, de se faire gauler, mais bon.
Ouais. Mais et donc, même ces gens qui sont dans la police, les Pakistanais, ils sont aussi sans leur famille, ils sont seuls.
Alors, là, sur les 800 000 travailleurs pakistanais, la très, très, très grande majorité n'a évidemment pas la famille. Alors, ils essaient évidemment de ramener les gens qui peuvent avoir un visa de travail, c'est-à-dire en règle générale des hommes. Et Dubaï est donc un pays à la démographie absolument consternante, puisque à nouveau, il n'y a que 10% d'autochtones, mais que sur la population totale, il y a non pas une moitié de femmes, mais un tiers, voire moins. Certaines personnes disent que probablement il y a à peine un quart de femmes à Dubaï. Comme il n'y a qu'un quart de femmes à Dubaï, il y a extrêmement peu d'enfants et d'adolescents. La quasi-totalité des enfants et des adolescents sont soit dubaïotes d'origine, soit sont les enfants des familles des expatriés blancs, anglo-saxons, friqués, qui peuvent obtenir de faire venir leur famille, et dont Dubaï pense qu'ils repartiront chez eux. Mais le Pakistanais moyen, bien entendu, il peut pas venir faire sa femme. Donc, côté misère sexuelle, je vous raconte pas, il y a 800 000 bons hommes qui revoient leur femme une fois tous les 2 ans. Alors, en plus, comme la prostitution est énorme à Dubaï, ils voient dans certains quartiers, enfin c'est relativement confiné dans une zone bien précise, mais quand même c'est facile à voir, ils voient tout un tas de prostituées russes, chinoises, africaines, mais qui évidemment sont complètement hors de leur prix. Et ces prostituées, bien entendu, je vous fais pas un dessin, sont elles-mêmes importées par tout un tas de gens charmants, délicieux, des gens qui ont beaucoup de respect pour la personne humaine.
Oui, c'est ça, comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude. Et alors, Pourquoi tu es allé là-bas pour ce... Je me dis, mais qu'allait-il faire dans cette galère, bon.
Aïe, aïe, aïe. Un, par masochisme. Deux, parce que le lieu est extrêmement important à comprendre, parce que comme d'habitude, voilà un lieu qu'on nous présente comme l'avenir. Il y a 15 ans, j'étais allé au Japon quand on disait, ah, le Japon, voilà le pays qu'il faudrait imiter. J'étais allé y voir parce que je me suis dit, il y a un problème. Et là, Dubaï, c'est évidemment la même chose. Dubaï a été présenté comme le lieu où le capitalisme est complètement libre, et où, parce qu'il est complètement libre, ce qu'il fait, c'est des merveilles. Et en plus, deuxième merveille, Dubaï est présenté comme le lieu où la religion, l'islam, peut devenir moderne, montre qu'il peut être tolérant, et montre qu'il peut être quelque chose de tout à fait intéressant. Donc j'y suis allé y voir. Et concrètement, pourquoi est-ce que j'y suis allé au moment où j'y suis allé, c'est-à-dire l'année dernière, pendant l'hiver et le printemps 2009, c'est que la bulle immobilière de Dubaï s'était cassée la figure. Dubaï faisait tout pour que ça ne sache pas, mais il y avait un moyen extrêmement simple de s'en apercevoir. Ça faisait longtemps que je voulais aller à Dubaï, et donc je regardais sur Internet les prix des hôtels. Or, les prix des hôtels à Dubaï...
Inabordables.
Totalement inabordables. Et puis, tout d'un coup, le truc s'était effondré. Les prix des chambres dans énormément d'hôtels s'étaient divisés par un facteur de 3. Et en plus, à Dubaï, où ils ont besoin de main-d'œuvre occidentale, il y a un grand nombre d'appartements hôtels, donc on peut louer pour longtemps, et où c'est donc moins cher. Donc là, je me suis dit, c'est le moment, il faut que je me précipite, et c'est le moment où j'ai pu y aller, et de fait, l'hôtel n'était pas plein, et j'ai pu négocier un prix nettement inférieur. En gros, j'en étais à 60 euros dans un hôtel vraiment extrêmement modeste. Quelques mois avant, c'était 160 euros pour juste une...
Pour un hôtel modeste.
Ah, pour un hôtel tout à fait modeste. Un peu moins qu'un Ibis, un peu moins qu'un Ibis en France, quoi. Et évidemment, ça, c'était l'un des signes. Et comme je le raconte dans le livre, la bulle immobilière avait en fait craqué nettement avant, puisqu'elle avait craqué très précisément entre le 28 juillet et le 4 août. Et on voyait déjà des chantiers partout. Alors il faut le savoir, Dubaï c'est une mare, une mer, un océan de chantiers. Il y a effectivement des grues partout, mais ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de ces chantiers étaient arrêtés. Et pile en face de mon hôtel, ce que je voyais de mes fenêtres, il y avait un gratte-ciel qui faisait, je sais pas, mettons 35 étages, 40 étages, et le chantier était arrêté. Et visiblement, le chantier était arrêté depuis plusieurs mois. Et tout ce qu'il y avait en bas, il y avait juste deux gardiens pakistanais en bas qui s'embêtaient à mourir. Et absolument rien ne se passait sur ce chantier-là, comme sur beaucoup d'autres.
Mais alors donc, le fait, tu penses que c'est l'économie donc de Dubaï
Alors, l'économie de Dubaï, elle est à la fois très intelligente et complètement absurde. Elle est intelligente en ce sens que Dubaï a réussi à se positionner comme le carrefour commercial du Golfe Persique, avec évidemment les économies de l'Arabie Saoudite.
Mais ça a toujours été comme ça. Parce que tu reviens un peu sur l'histoire justement cet endroit, Dubaï, et tu dis, à un moment donné, il y a bien deux siècles que ça, c'est un peu comme ça.
Voilà, hein. Dubaï était au départ un petit port sans grande importance, mais qui avait le grand avantage qu'il y avait une crique en eau profonde qui était bien pratique sur ce côté du golfe Persique. Et puis les petits émirs de Dubaï se sont rendus compte que ce qu'ils devaient faire, c'était monter un port franc où on paierait pas beaucoup d'impôts, pour que les commerçants de l'Iran, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite, etc., puissent avoir un lieu où faire transiter leurs marchandises. Et ils sont aperçus que cette stratégie-là payait bien. Ensuite, quand le pétrole a été trouvé à Abu Dhabi et ailleurs, ils en ont trouvé un peu, et avec intelligence, ils ont utilisé les revenus du pétrole pour continuer à investir sur leur port, leur aéroport. Mais la grande différence, c'est qu'ils ont compris que non seulement il fallait être un port franc, mais il fallait avoir aussi les vices des ports francs, c'est-à-dire dans cette zone rigoriste, puritaine et infernale, il fallait offrir un endroit où les riches, les bourgeoisies, alors, les grandes bourgeoisies des zones pétrolières allaient pouvoir se défouler à coups d'alcool et de prostituées, et où les bourgeoisies des pays instables alentour, l'Iran, l'Irak, l'Inde, l'Afrique, allaient pouvoir avoir un succès d'année d'Occident. C'est-à-dire que Dubaï offre, c'est vraiment une espèce comme on lit au début, une espèce de Las Vegas arabe, on va dire, ça offre un succès d'année d'Occident. Un endroit où il n'y a pas de mendiants, contrairement à ce qu'il y a en Iran, en Irak, en Afrique, etc. Un endroit qui est propre, qui est bien tenu, où on a des beaux magasins à l'occidental, mais où en même temps les inscriptions sont aussi en arabe et où on comprend comment travailler avec des Iraniens, etc.
C'est une vitrine, quoi.
C'est une vitrine remarquablement bien menée. Seulement, voilà, ce qui s'est passé, c'est comme d'habitude, le capitalisme ne sait pas s'arrêter. Et comme Dubaï a fait une publicité d'enfer pour dire à tous les petits investisseurs, à les gros investisseurs de la planète, à Dubaï, venez, il n'y a pas d'impôts, vous pouvez faire ce que vous voulez, précipitez-vous. Bien entendu, ça a déclenché une bulle immobilière. Alors la bulle immobilière, tu as vu, j'ai plusieurs sourates sur le sujet.
Ouais.
Et j'ai interviewé trois personnes à trois niveaux différents de la bulle immobilière. J'ai interviewé un petit mec, puis j'ai interviewé deux personnes considérablement friquées, qui m'ont jamais dit exactement ce qu'ils avaient investi, ce qu'ils avaient perdu, mais enfin, dont j'ai pu déduire qu'en gros, on parlait de gens qui manipulaient 15, 20, 30 millions de dollars par eux-mêmes. Et ces gens-là, bien entendu, se sont précipités sur cette bulle immobilière. Et le marrant de l'affaire, c'est qu'ils savaient tous. Ils savaient toutes que c'était une bulle. Donc ils savaient tous que ça allait crever. Mais comme tous étaient des gens cupides, bien entendu, ils se disaient toujours « Ah, ça va crever !» Dans un an.
Voilà.
Ça va crever.
Profitons-en.
Dans
toujours
10 mois.
Du court terme.
Toujours du court terme. Mmh. Et puis, comme je le décris, il y a quelqu'un, donc l'une des deux personnes m'a dit, mais c'est très simple. Le 28 juillet, j'étais encore à vendre et à acheter. Alors, attention, quand on dit vendre et acheter, il faut se rendre compte de quelque chose. En France, acheter une villa, ça prend 2 mois. Au mieux.
Mmh.
À Dubaï, ça prend quelques heures. Une villa sur plan. Un gratte-ciel sur plan, un appartement dans un gratte-ciel sur plan, ça s'achète en quelques heures. Donc, ça se revend en quelques heures. Donc, le travail, entre guillemets, de ces braves gens, c'était d'acheter des gratte-ciels, des villas, des appartements pour des millions de dollars, les revendre 4 ou 5 jours plus tard avec 2 ou 3% de bénéf. 2 ou 3% de bénéf sur 15 millions de dollars.
Alors, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup.
Ouais.
Tu fais ça pendant 6 mois. Ça fait beaucoup d'argent. Et le phénomène était devenu tellement brutal que donc le gars me dit, je pars le 28 juillet, j'avais plein de propriétés dans mon portefeuille de propriétés, et évidemment j'étais persuadé qu'à mon retour j'allais continuer à les vendre au même rythme, c'est-à-dire quelques jours après les avoir achetés. Il me dit, je reviens le 4 août, personne n'achète. Et quand il dit personne, il dit personne. Et moi j'ai vu ça, donc c'était le 4 août 2008, moi j'étais donc en 2009, et il y avait bien entendu les magazines de petites annonces gratuites.
Ouais.
Et dans les magazines de petites annonces gratuites, il y avait des pages et des pages et des pages et des pages de propriétés en vente.
Ouais. Mais rien qui...
Et il n'y avait rien qui disait je
de
voudrais acheter quoi.
Ouais.
Il y avait aucune... Et alors, il y avait un truc également absolument fascinant. Vous voyez les petits magazines d'annonces qu'on a ici à Paris, Paris Vendu, Paris Boum Boum, etc. Hein, avec les marabouts, les astrologues. Et là, les petites annonces, c'était Mercedes, Daimler, Rolls-Royce, Cadillac. C'était tous les riches qui essayaient désespérément de se refaire une santé financière en vendant toutes les bagnoles de luxe qu'ils avaient achetées. Parce que bien entendu, tout d'un coup, ils se retrouvaient avec, mettons, 10, 15, 20 propriétés qu'ils avaient achetées à crédit. Le crédit, fallait bien le rembourser. Et toujours pareil, le problème, c'est qu'ils étaient dans une trouille noire. C'était qu'on les renvoie dans leur pays en piquant ce que, en tout cas, ils avaient déjà acheté et qu'ils possédaient déjà.
C'est un petit peu ce que nous expliquait tout à l'heure Bernard Demiot quand il parlait des traders. Finalement, ça s'emballait, ils faisaient même plus attention, donc ça se faisait
exactement.
Tout seul, quoi.
Ça se faisait tout seul. Alors, à l'inverse, ensuite, j'ai interviewé un petit trader. Alors là, c'était très mignon. Le type était extrêmement sympathique, un petit Libanais de 24 ans qui avait grandi en Afrique parmi les ce qui est encore évidemment les colonies africains, plein d'illusions, et qui arrive à Dubaï. Et qui m'a sidéré, parce que ce jeune trader qui gagnait quand même, si je me souviens bien, 4000 euros par mois, Dubaï c'est tellement cher que quand il a voulu se trouver un appartement dans un des merveilleux gratte-ciels devant la mer, eh bien il a bien trouvé un appartement. En colocation. Bon, déjà pour un trader ça la fout mal, mais attends, il y a mieux. La chambre qu'il a eue, il m'a emmené dedans. Eh bien, tu vois le studio où on est, là ?
Ouais.
Hein, il fait quoi ? Il fait 4 mètres sur 3 ?
Oui, à peine. Oui.
À peine. Ben voilà. Ben, c'était pareil. C'est-à-dire, lui, j'ai mesuré, ça faisait 3 mètres sur 3. Et Et la fenêtre, c'était pas une vraie fenêtre, c'est une espèce de vasistas immonde qui donnait sur un mur. Mmh. Et ça, il payait 1000 euros par mois pour être là-dedans. Et c'était ça. Et là aussi, on voit à quel point le capitalisme est devenu démentiel. Il bouffe non seulement, comme d'habitude, les petits, les sans grades, les obscurs, les pauvres, mais il bouffe même ceux qui profitent le mieux de son système à lui. Et le gamin m'a également raconté ceci. Il s'était mis à spéculer pour son compte sur le pétrole. Et pendant l'année 2008, il y avait eu plein de problèmes sur le pétrole. Et en fait, c'était bon pour lui parce que ça modifiait les cours dans un bon sens. Et il avait démarré avec 50 dollars. Et quand il en était arrivé à 5000 dollars, il n'en pouvait plus. Et en 2 heures...
Il a tout perdu.
Il a tout perdu quand c'est tombé. Et il m'a dit, il était dans une rage tellement folle qu'il a pris son clavier d'ordinateur et il l'a pété. Mmh. Et ça, je l'ai rencontré, ce petit trader, dans un truc encore plus démentiel. On était donc en 2009 et je vois des annonces de pub. Devenez trader en une semaine. Alors, je me suis dit quand
Bernard,
même.
Bernard, tu vois, ouais, bon, ça continue.
Alors, je me suis dit quand même, il faut avoir des couilles absolument gigantesques pour oser à Dubaï en 2009 proposer de devenir trader en une semaine. Alors je téléphone. Je me dis, oh monsieur, quelle merveilleuse coïncidence, nous avons justement un cours qui commence aujourd'hui à 17h. Venez, vous êtes le bienvenu. J'ai dit, j'arrive, je veux devenir riche. Et j'arrive donc dans mon cours de trader et j'ai été absolument fasciné. D'abord, la clientèle, c'était quasiment que du pakistanais ou de l'indien. Et il y avait exactement 4... Alors, je dirais non pakistanais ou indien. Il y avait 2 américains, sexagénaires, un monsieur et une femme, mon petit trader libanais et moi-même. Et puis, les 2 professeurs de trading, c'était à mourir de rire parce que les gars, visiblement, essayaient d'en foutre plein la vue à leur public avec des mots techniques. Ah, j'ai continué.
Ah bah écoute, attends, il faut le jargon quand même.
Ah, il faut le jargon.
Tu payes pas pour rien du tout quand
Absolument.
Même.
Absolument. Et alors avec un projecteur, il y avait un ordinateur qui projetait un truc sur l'écran et qui était donc la fenêtre d'ordinateur que tu as quand tu es trader. Alors attention, les cockpits de pilotes des Boeing 747, c'est de la gnognotte à côté. Il y avait des trucs dans tous les sens, tous les azimuts, et le gars de jongler, de cliquer sur un machin, de cliquer sur un autre, puis il y avait une grosse voix qui sortait. Order accomplished. Order accomplished. Quand on avait vendu, quand on avait acheté. Et vous voyez, là, j'ai gagné 2%,28. Ah, là, je viens de perdre 1%,28. Vous savez, on gagne pas à tous les coups, mais je vais vous expliquer. Et vous comprenez que les analystes stochastiques nous donnent que le taux. Alors, je me disais, c'est quand même bizarre, mais en fait, le vrai bidule, c'était.
Et tout le monde
que...
était bouche bée.
Tout le monde était absolument bouche bée. D'autant plus qu'il y en avait un des Pakistanais, il avait fait ses devoirs. Et il levait la main, il disait, mais alors, attendez, excusez-moi, le taux de prévisibilité à 15 jours, là, que vous avez dans le... On regarde, on dit, putain de Dieu, celui-ci, qu'est-ce que... Et au bout d'une heure et demie, mine de rien, arrive une petite secrétaire très jolie, très sémillante, et qui dit, Monsieur Abdul Al-Kader, s'il vous plaît. Bon, alors, Monsieur Abdul Al-Kader sort, et puis, Monsieur Intel, et puis ensuite, vient mon tour, Monsieur Trémont, s'il vous plaît. Alors, et je me retrouve face à un autre Pakistanais, en chemise violette, avec avec presque un jabot, et c'était le vendeur qui allait me vendre le cours. Ah. Alors, le cours, c'était donc une semaine intensive pour devenir trader à 3 500 $. Et je me suis... vraiment, je bichais parce que moi, je suis même pas capable de faire une division. Donc, je l'ai laissé venir d'abord pendant un bon quart d'heure m'expliquer les mérites de la chose. Donc, voilà, j'ai les documents, vous voulez signer ? Expliquez-moi encore un petit peu. Le moment, il y a eu quand même quelques minutes difficiles où j'étais obligé de lui dire non, mais vous savez, je vais pas signer du tout parce que j'ai rien compris. J'ai rien compris de rien.
Oui, mais justement.
Oui, c'était évidemment, j'étais le public rêvé.
Mais voilà.
J'étais le public rêvé pour ça.
Tu allais tout comprendre pendant la semaine de formation continue et accélérée.
J'allais certainement tout comprendre et gagner des fortunes. Et alors, justement, on en parlait hors antenne, on parlait du sable dans l'appartement du petit trader.
Oui, c'est une auditrice qui s'est souvenu de ce que tu avais dit au moment du salon du livre libertaire.
Voilà. Alors là, dans le petit appartement du trader, qui était dans un gratte-ciel magnifique, avec un lobby plein de marbre, 40 étages, ouais. Vue sur la mer, enfin, un truc vraiment très impressionnant. On se dit là-dedans, c'est Babylone.
Oui, puis après c'est la cage à lapins.
Voilà, dedans donc la cage à lapins, et puis dans l'appartement, le gars me montre du sable. Je dis, mais vous avez pas, vous nettoyez pas, non, c'est pas le problème, on nettoie. Mais le sable s'infiltre. Mmh. Je dis, mais attends, vous êtes au 33e étage. Oui. C'est tellement mal construit par des ouvriers pakistanais tellement exploités, qui se font tellement chier, très rapidement, avec des matériaux sur le dehors très beaux, à l'intérieur de la merde, qu'avec les écarts de température violente de Dubaï, bien entendu, le truc joue, et le sable du désert s'infiltre. Et donc, tu as cet appartement incroyable, avec du sable qui rentre dans le truc. Et puis, ensuite, il me dit, bon, maintenant, taisez-vous, faites pas de bruit. Alors, on fait plus de bruit, et j'entends... Il me dit, c'est tout le temps comme ça, ça joue.
Oh,
et oui, parce que c'est pareil, pour que le sable puisse s'infiltrer, c'est qu'en fait, les matériaux jouent.
Mmh.
Et à nouveau, tu te dis, mais tu regardes ce gratte-ciel, tu dis, c'est pas possible, c'est un truc hyper moderne, hyper high-tech, tout ce que tu veux. Et en réalité, c'est construit comme de la merde. Or, j'ai une autre sourate, justement, où j'interview.
Mais attention, là, attends, je t'arrête, parce qu'il y a la tour qui sue, là.
Alors,
qui
la
fait 160, je sais plus combien d'étages.
La tour qui sue. Alors, bon.
Parce que c'est cette tour-là, dis donc.
Elle est pas mal dans
oui, sinon, mais attends, si c'est.
Alors,
tu fais là
Alors là, ce à quoi tu fais allusion, c'est donc l'ancienne tour Burj Dubaï qui maintenant s'appelle Burj Al Khalifa. Al Khalifa, c'est le nom de la famille régnante en Abu Dhabi, qui est en train de sauver Abu Dhabi de la faillite en leur prêtant des fortunes. C'est pour ça qu'on a donné ce nouveau nom-là à la tour, la fameuse tour qui fait 818 mètres. Alors justement, je parlais avec une vraie architecte et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu penses de la construction à Dubaï ? Elle m'a dit, écoute, moi, quand je travaillais comme architecte, maintenant elle travaillait comme libraire. On m'avait employé parce que, oui, tu vas comprendre pourquoi. On m'avait employé parce que j'étais polonaise, que donc je coûtais pas cher, et que c'était sur des chantiers où il fallait que tout soit pas cher, sauf ce qu'ils voyaient, et où donc on construisait de la merde en paquet de 10. Et elle disait, ces gratte-ciels, ils tiendront pas un siècle, ça c'est très évident.
Mais en plus de ça, c'est construit sur une île qui a été.
Alors. Pas tout. Tu as ce projet absolument délirant
des îles
artificielles.
Des palmiers, voilà. Ou je sais pas quoi.
Alors le projet des îles en forme de palmier, c'était un truc au départ. Il y a une idée à nouveau très intelligente du point de vue économique. L'émir actuel, son père était un type remarquablement intelligent et qui avait tout de suite compris. Voilà, Dubaï, c'est bien gentil, mais c'est tout petit. On n'a pas de pétrole. Mmh. Il faut qu'on attire les gens. Et maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui attire les gens ? Ben, c'est la mer. On a 72 km de côte, c'est pas assez. Donc on va créer des côtes artificielles, on va faire une île artificielle pour avoir des plages artificielles.
Mais attends, 1000 km.
Et effectivement, le total des projets qui ont été discutés sur Dubaï, ça fait 1000 km de plage au total. Bon. Et l'idée, c'est donc de construire ces îles artificielles pour, un, augmenter le kilométrage de plage, mais deux, c'est une histoire de marketing. C'est tellement fascinant, l'idée de l'île artificielle, de la terre qu'on crée sur la... Ça va très profond au niveau des mythes humains.
Oui, tout à fait.
Et ça participe du mythe global de Dubaï, qui est en fait un mythe américain transplanté dans le golfe persique. On peut tout faire. La nature n'a aucune limite. L'être humain peut imposer...
C'est Atlantis à l'envers.
C'est Atlantis à l'envers. On peut imposer notre désir à la nature autant qu'on veut. Il n'y a aucune limite.
Oui, mais attendez, c'est quoi ? C'est avec quoi, là, cette île artificielle ?
C'est extrêmement simple.
Si c'est du téflon comme l'immeuble, laisse tomber, quoi.
Alors, technologiquement, c'est pas compliqué du tout. Ils ont fait appel à des Hollandais, qui sont évidemment les mecs les plus forts pour ce qui est des terrains artificiels sur la mer. Donc, c'est pas compliqué. On va racler du sol un peu plus loin dans l'océan, là où c'est un peu trop profond pour construire. On met ce sol à bord d'un bateau, et puis une espèce d'aspirateur géant, puis ça recrache. Et alors c'est fou parce que moi j'ai vu les photos, c'est très très impressionnant. Les types, ils ont le culot d'appeler ça rainbowing, c'est-à-dire en arc-en-ciel. Mm-hmm. Parce que les trucs qui recrachent le terrain, c'est des jets tellement puissants que ça fait une espèce d'arche, un peu comme un arc-en-ciel. Oui, mais attention, c'est tout noir. Mm. Parce qu'évidemment, c'est de la boue de l'océan, donc on recrache ça. Et à force de recracher, on arrive à créer un sol... en apparence relativement solide. Alors justement, ces îles artificielles, il y en a une qui a été terminée, qui est quand même déjà gigantesque. Mmh. Je me souviens plus des chiffres, mais je crois qu'ils ont quelque chose comme 200 km de plage, un truc vraiment considérable. Et je suis allé dessus, ce qui est pas facile parce que comme c'est tout privé, hein, comme d'habitude, c'est comme les gated communities en Amérique, c'est tout privé, c'est pas facile. Et puis se promener à pied dans Dubaï, oublie, hein, par 50 degrés, c'est pas la bonne idée. Et puis, j'ai compris que pour y aller, c'était très simple. Puisque dans les journaux, il y avait toutes ces annonces pour vendre des villas,
Donc tu as dit,
j'ai téléphoné à une agence. Oui, alors votre villa à 12 millions de dollars, elle est pas mal, mais bon, vous me la montrerez, mais vous montrerez d'abord celle à 15 millions de dollars, hein, parce que ça m'intéresse un peu plus. Mmh. Bon. Donc, le vendeur, évidemment, était ravi d'avoir enfin un acheteur, mais bien entendu, cher monsieur, on a donc envoyé une limousine pour aller me chercher. Et on m'a emmené dans la villa à vendre à 12 millions de dollars. Alors évidemment, la villa à 12 millions de dollars, elle n'est pas vilaine du tout, hein. Il y a rien dedans. Enfin, c'est quand même une grande villa impeccable. Mais ce qui est fascinant et qui explique l'un des problèmes aussi de l'immobilier de Dubaï, c'est que c'est censé être dans une île artificielle avec une plage au pied de ta villa. Hein. Ouais. La mer vient au pied de ta villa. Mmh. Bon, d'accord. Alors on sort de la villa parce que j'ai dit, bon, maintenant je voudrais voir la mer, mais bien entendu, monsieur, on sort, et puis il y a une petite plage, et puis je regarde, et puis ce que je vois, c'est une espèce de fond de sable gris, dégueu, infâme, avec un tout petit peu d'eau, enfin une espèce de mare, je dirais de 40-50 mètres de large, dégueulasse, et s'étendant jusqu'à l'horizon. J'ai dit, mais c'est ça la mer? Ah ben oui, monsieur, c'est... mais vous comprenez on est à marée basse. Deux fois par jour, la belle mer se casse. Et à la place, t'as un truc boueux, infâme.
Oui, parce que ce qu'ils ont craché avec le rainbow machin.
Exactement ce qu'ils ont recraché avec leur truc. Et donc, c'est absolument immonde. Et ce qui est évidemment dommage, parce que par ailleurs, l'eau dans le golfe Persique est absolument magnifique. À Dubaï, la mer, faut reconnaître, est absolument splendide. Ils font relativement gaffe à la pollution, donc elle est encore à peu près, elle est encore à peu près propre. Mais c'est absolument typique de Dubaï. On te promet quelque chose de sublime, et puis tu grattes un peu derrière, et il n'y a pas grand-chose. C'est comme le fameux hôtel délirant, l'hôtel en forme de voile.
Oui, en téflon.
Voilà, exactement. Alors, pourquoi est-ce que Christiane dit en téflon? Si vous voyez la tête de l'hôtel, vous savez, c'est cet hôtel en forme de voile qu'on voit toujours, qui s'avance dans la mer et il semble complètement solitaire. La façade qui est du côté de la terre, et pour qu'elle reste blanche, eh bien, c'est du téflon. Parce que comme ça, le sable du désert ne s'accroche pas, ouais. Il glisse et la façade reste effectivement blanche sans qu'on ait besoin de l'entretenir. Alors cette forme, elle est effectivement spectaculaire. L'idée, c'était de créer une espèce de tour Eiffel de Dubaï. Et ce qui est fascinant, c'est l'intérieur. Parce que alors, l'intérieur, il faut mettre ses lunettes de soleil. Parce que alors, la décoration...
C'est doré.
C'est très, 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 mais alors très, très doré. Puis alors, entre le doré, c'est rouge. Puis alors, entre le rouge et le doré, c'est vert. Mais alors, vert pomme fluo. Et puis alors, si on peut mettre du strass, on met du strass. Et si on met pas du strass, on met des miroirs. Et quand on met plus de miroirs, on remet du doré.
Est-ce qu'il y a l'étiquette avec le prix qui pend?
Je dirais qu'à mon avis, il n'y a pas besoin. Parce que tu le vois, tu entres dans cet hôtel et tout te hurle. J'ai coûté 1 million de dollars. J'ai coûté 500 000 dollars. J'ai coûté 14 millions de dollars. C'est impossible. Et c'est absolument grotesque, mais c'est fait pour la clientèle, justement, des Émirats, c'est fait pour les mafieux russes, et de fait, c'est absolument bourré de ces gens-là. Il suffit de rentrer dedans pour s'apercevoir que c'est exactement ces gens-là qui sont là-dedans. Hop. We'll be right back.
Alors sur cette musique d'Amar Diab, voilà la ballo, moi j'ai trouvé que c'était pas mal aussi puisque c'est un peu de la région et puis c'est assez entraînant et puis bon moi j'imagine un peu de Dubaï comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a plein de choses hein, dans ton bouquin Sourate pour Dubaï, c'est de page en page on saute dans des, on pourrait faire 4 heures facile hein. Alors évidemment il y a quand même faut le dire Jean-Manuel, il y a la fameuse piste de ski parce que ça.
Oh, la piste de ski,
ah
quel
ouais,
bonheur.
Parce que la piste de ski, bon voilà parce qu'il faut faire du ski hein.
Alors,
c'est, il fait
alors,
50 degrés mais c'est quand même pas mal de faire du ski quoi.
Alors exactement, c'est la même idée que les îles artificielles, il s'agissait de taper sous la ceinture, de taper dans les mythes. Mettre de la neige dans le désert. Mettre une piste de ski dans les Émirats pétroliers. Ça évidemment, c'était évident que pour le petit investissement de faire une piste de ski, ça allait générer une publicité mondiale et permanente pour Dubaï. Donc, le pari gagné du point de vue des Dubaïotes. Mais c'est évidemment, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Alors, à nouveau, je remonte dans mon taxi. On monte dans ces autoroutes gigantesques qui sont dans Dubaï.
On le voit bien d'ailleurs sur, hein,
la couverture.
Sur la couverture, elle est assez explicite.
Voilà, faite par un excellent photographe.
Il y a plusieurs, il y a plusieurs photos à l'intérieur du bouquin qui sont très bien.
Hein. Et très bon photographe Max Lamour. Et donc on est sur cette autoroute gigantesque et on met bien à nouveau une ville qui fait 70 km de long. On met facilement une demi-heure de l'hôtel où j'étais jusqu'à la piste de ski.
T'avais pris ton anorak?
C'est fourni hein. Alors les moon boots et tout ça c'est fourni. Et le chauffeur me montre une espèce d'énorme tube en aluminium énorme hein, à un angle. Mais le tube, le truc moche, ouais. Je dirais un tétrapack sans la pub dessus et, et mis un peu sur un angle. Ah, bon, c'était la piste de ski. Alors, c'est dans l'un des très nombreux shopping malls de Dubaï. À Dubaï, la seule offre culturelle, c'est le shopping mall.
Il
n'y
a pas qu'à Dubaï, entre nous.
Il n'y a pas qu'à Dubaï.
Aux États-Unis, c'est pas mal aussi.
Voilà. Ah, mais alors, ceux de Dubaï sont absolument exceptionnels.
C'est,
ils sont
c'est
gigantesques.
Plus grand, c'est plus grand.
C'est complètement écrasant, d'ailleurs. Mais enfin, bref. Et donc j'entre dans ce shopping mall et je mets un certain temps à aller à pied jusqu'à la fameuse piste de ski. Et là, les bras m'en sont tombés. Évidemment, comme il s'agit de faire une piste de ski, il faut contrôler le climat. Pour maintenir le froid nécessaire, il faut boucher toutes les ouvertures. Donc on est dans un grand tube, à nouveau. Il n'y a pas de fenêtre.
Totalement hermétique.
Il n'y a pas de ciel.
Ouais.
Et c'est éclairé au néon. Néon. Une piste, évidemment, c'est pas une piste noire, hein, c'est une piste pas très 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 pentue, avec des remontées mécaniques. C'est
ah
beau
ben
les
oui.
remontées mécaniques, hein, le béton c'est beau, puis le métal c'est bien, les tire-fesses. Et à cause d'un problème scientifique, on va dire, c'est tout gris parce que s'il y a du brouillard, une espèce
oui.
de
condensation.
Ouais. C'est pas un gros brouillard lourd, mais enfin, c'est quand même complètement grisâtre. Et comme il n'y a pas de ciel, qu'il y a juste un plafond, moi, imagine-toi, Christiane, que tu deviens toute petite, et quand on te met dans un entonnoir en plastique bourré de coton. Voilà, ça c'est le ski à Dubaï. C'est pas merveilleux?
Alors, déjà que j'aime pas le ski, alors tu peux t'imaginer, c'est là. Oui, remarque, il faudrait peindre des. Ils ont pas mis des petites étoiles dorées dans le ciel?
Non, attention, les petites étoiles, les fausses petites étoiles, c'est dans le shopping mall Ibn Battuta.
Ah bon, quand même.
Celui qui est sur le thème du grand voyageur arabe.
Le pauvre homme, voyageur, on lui a collé des petites étoiles dorées.
Et c'est comme à Las Vegas, il n'y a pas de ciel, il y a des faux plafonds qui imitent la nuit, qui imitent le ciel. Enfin, on est dans l'artificiel le plus total. Et le pire de toute cette piste de ski, c'est très simple, c'est quand les gens ont fait leur ski et qu'ils viennent se réconforter au bar. Alors le bar est construit comme un chalet français avec du bois partout, hein, du beau bois doré et avec une cheminée. Attention, on va pas faire du feu à Dubaï.
Ah bah faut pas déconner, attends.
Alors il y a un écran vidéo avec le DVD d'un feu de cheminée.
Il y a le bruit, clac, 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 oui, d'accord.
Là, je me suis dit, là, vraiment, c'est fini. C'est pas la peine qu'on continue à vivre des vies réelles. Suicidons-nous tous, parce que nous vivons à Disneyland.
Oui.
C'est monstrueux.
Oui. Et donc, mais c'était facile parce que bon, tu dis à un moment donné, c'est pas toujours évident d'avoir d'abord le contact avec les personnes. C'est un peu quelquefois un peu le fait du hasard. Mais même quand tu cherches à avoir des contacts, tu es obligé d'envoyer des mails, etc.
Alors ça a été l'un des livres les plus difficiles pour moi à faire parce que les Dubaïotes, d'abord, les Dubaïotes autochtones se méfient énormément. Des gens qui veulent les rencontrer parce que toujours c'est pour leur demander finalement du fric ou de l'aide.
Ouais.
Donc la fameuse hospitalité bédouine, mon cul,
ouais.
Je n'ai pas pu pénétrer dans une seule maison de Dubaïotes, pas une seule fois. Je n'ai pu interviewer que trois vrais Dubaïotes, et encore parce que je les ai tannés au cul. Vraiment longtemps. Je dois reconnaître que le grand moufti de Dubaï m'a parlé parce que c'était, il a pris ça pour un devoir religieux. Il était persuadé que je voulais tout savoir avant de me convertir, donc il a accepté de me parler. Ensuite, il a été légèrement déçu. mais c'est difficile, très difficile de parler aux Dubaïotes. Et pour les expatriés, c'est pas que ça soit difficile de parler à l'Américain moyen ou à l'Australien moyen qui vit à Dubaï, mais c'est que un, il veut pas évidemment qu'on utilise son nom. Et il se méfie de ce qu'il va dire parce qu'il ne vit que sous une trouille.
Ouais.
C'est que il me raconte quelque chose, c'est publié et après, quelques heures après arrive une voiture de la police et à nouveau. C'est pas une exagération, c'est pas un truc rhétorique. C'est arrivé à nouveau à ces deux personnes là, ces deux traders dont je t'ai parlé, de se faire arrêter et de ne réussir à éviter d'être renvoyé. Dans un avion d'Emirates Airlines, que parce qu'ils avaient aussi un pote auquel ils ont pu téléphoner in extremis. Mais sans ça, c'est en 4, 5, 6, 7 heures, hop, tu pars. Et ta villa, ta villa que t'as achetée.
Ah oui, tu t'assois dessus.
Tu t'assois dessus, les objets que t'as dedans, tu t'assois dessus. Tu vois, vaut mieux ça que d'aller croupir dans une prison merdique quelque part. Mais enfin,
mais
c'est quand même
tout.
Extrêmement rapide. Donc, les gens à Dubaï étaient pétrifiés de trouilles. Et dans mon livre, je n'ai que deux personnes dont je cite les vrais noms, qui sont deux pontes de l'architecture dubaïote, c'est-à-dire le monsieur qui est chargé de donner à Dubaï, de préserver les traditions dubaïotes. Il faut savoir qu'il y a 300 ans, Dubaï, il n'y avait même pas 800 habitants. Hein.
Ouais.
Donc les traditions dubaïotes...
Oui, laisse tomber.
Et le deuxième, c'est un petit bonhomme très énergique, par ailleurs fort sympathique, mais qui est le monsieur qui donne les règles d'urbanisme de Dubaï. C'est-à-dire surtout le monsieur qui dit... quelle est la hauteur des gratte-ciels, quelle est la largeur des rues, combien de boutiques on peut mettre dans une... Donc, l'un des bons hommes les plus puissants de Dubaï. Et je continue à me demander pourquoi est-ce qu'il a accepté une interview avec moi. Mais enfin, quand il me l'a donné, j'en ai profité. Il y a deux longues sourates sur le sujet, parce que c'est très très important. On voit en particulier comment, avec la meilleure volonté du monde, ce gars-là instaure une ségrégation de classe extrêmement brutale. Qui n'a pas besoin de flics, hein, qui est tout simplement une ségrégation de classe par le fric, et qui permet d'isoler les différentes classes sociales de Dubaï les unes des autres. Mais dès qu'on commence à poser des questions légèrement dérangeantes, la guillotine tombe. Ce gars-là, j'ai fait deux séances avec lui. Première séance, toute gentille. Deuxième séance, j'ai commencé à poser des questions un peu plus dures. Il m'avait promis qu'il m'emmènerait chez lui, qu'il me ferait rencontrer des tas de monde. La guillotine est tombée. Et encore, j'ai eu du pot. Je n'ai pas été accompagné à la frontière. Mais sorti de là, toutes les autres interviews que je donne, j'ai été obligé de mettre des pseudonymes parce que les gens étaient pétrifiés de trouilles. Franchement, j'ai jamais fait un livre où les gens avaient autant peur. C'était pas une peur comme j'imagine le militant communiste au Chili en 1974. On n'allait pas se faire torturer et tuer. Mais enfin, tout perdre en quelques heures, évidemment, ça fait que les gens ont pas envie de tellement parler.
Bien sûr. Mais alors. Quand même, sous l'anonymat, il y a quand même dans le livre, tu dis pas mal de choses, tu révèles pas mal de choses. Hein, l'absurdité, bien sûr, puisque ça, on en a parlé amplement, mais également, par exemple, les conditions de travail hein, qui sont abominables.
Alors, les conditions de travail sont absolument délirantes, puisque, bien entendu, les 800 000 Pakistanais et Indiens ont zéro protection. Et les Dubaïotes ou leurs employeurs occidentaux disent avec fierté, mais attendez, c'est quand même mieux qu'au Pakistan.
Ouais.
Nous, on les paye.
Ouais.
Alors, nous, on les paye, il faut quand même savoir ceci, qu'en réalité, comme beaucoup d'employeurs dubaïotes, quand la crise est arrivée, ont cessé de payer leurs employés sans cesser de les faire travailler. Et justement, je donne dans mon bouquin un extrait, une coupure de presse dont je me demande encore comment est-ce qu'elle a pu arriver là, puisque ça a été la seule coupure de presse qui racontait qu'il y avait quelques milliers de Chinois qui étaient montés sur le toit de leur dortoir, parce que ça faisait 4 mois qu'ils n'étaient pas payés, alors qu'on continuait à les faire travailler. Et la police anti-émeute de Dubaï n'arrivait pas à les contrôler. Et donc, finalement, l'émir de Dubaï a forcé l'employeur à payer un petit peu. Mais, bien entendu, ce que j'ai su plus tard quand je suis revenu en France, parce que j'ai essayé de me renseigner de France, c'est que, bien entendu, un par un, tous ces Chinois ont été renvoyés chez eux.
Alors, il y a aussi le fait, c'est un petit peu en Israël, ils font ça également, c'est-à-dire que, par exemple, quand des gens viennent simplement pour travailler, puisqu'il y a eu pas mal après les affaires, après les accords d'Oslo, il y a eu ce phénomène en Israël, c'est-à-dire qu'on faisait venir des personnes de Chine, des Philippines, beaucoup, etc. Ils arrivent avec un contrat de travail, il se trouve qu'ils sont, d'ailleurs, souvent le premier mois, ils ne sont pas payés, ils sont payés $500 par mois, en général, donc une misère. Oui. Ils sont coincés, ils n'ont pas la langue, en plus, etc. Donc ils se retrouvent quelquefois dans des situations absolument insupportables, donc ils se disent je vais changer de patron. Or, quand on change de patron, en Israël, faut le dire, dans ces conditions-là, on met ta photo dans un journal et on dit wanted, parce que
C'est exactement ce qu'on fait à Dubaï. Dans les journaux de petites annonces, à côté des annonces de villas de luxe, des annonces de voitures de luxe, il y a exactement ça. Il y a des pages avec wanted, avec toute une série de visages, mais parfois des visages d'occidentaux aussi. Madame Gunilla Anderson, Madame Brigitte Smith. Quand ces gens-là démissionnent ou foutent le camp de leur employeur qui les paye pas ou qui les paye très mal ou qui a des conditions de travail démentielles, eh bien, comme le contrat de travail n'est valable que pour l'employeur qui t'a employé, si la personne est encore à Dubaï, eh bien, elle est considérée comme fugitive. Et pour se dédouaner, pour éviter de se faire couillonner par la police dubaïote, les employeurs eux-mêmes font ça. Alors que c'est souvent eux-mêmes, bien entendu, qui, par la brutalité de leur traitement, sont responsables de ces changements. Et ça, c'est...
On ne leur prend pas leur passeport quand ils arrivent.
Alors, si. Alors, à Dubaï, bien entendu, quand tu viens pour travailler, ton passeport est aux mains de ton employeur. Donc ton employeur, il a, je dirais pas droit de vie ou de mort, mais quasiment. Et c'est également comme ça que Dubaï arrive à maintenir la paix sociale à Dubaï. C'est que comme les employeurs ont les passeports, dès qu'il y a le moindre mouvement de revendication, on sait tout de suite qui est qui. Et la menace est immédiate. Vous râlez, on va vous ramener dans votre pays, manu militari.
Et n'importe comment, ils auront toujours des personnes qui vivent dans un tel état de misère, qui vont essayer, en tout cas, n'importe comment, ne serait-ce qu'à être attirés par les photos.
Et bien entendu, Dubaï, bien entendu, géographiquement, c'est situé où ? C'est situé à côté de l'Afrique et c'est situé à côté du Pakistan. Le Pakistan est un état qui est en plein écroulement maintenant, où les gens crèvent la faim, où ils sont prêts à travailler pour n'importe quoi, puisque au Pakistan, non seulement ils ne travaillent pas, mais on les raquette. Il y a la guerre entre les Américains, les Talibans, enfin c'est un pays invivable. Et tous les Pakistanais avec qui j'ai parlé à Dubaï me disaient tous, monsieur, vous avez parfaitement raison, nos conditions de travail sont abominables.